RMC, 9h, midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour 3 heures de débat de liberté d'expression avec vous bien sûr au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler à débattre avec aujourd'hui autour de la table deux femmes et un homme. Didier Giraud, l'agriculteur, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à la France profonde et à toutes les grandes gueules.
Et alors je peux vous dire que Didier est arrivé ce matin, il est remonté comme une pendule parce qu'il se dit je suis face à deux grandes gueules féminines, il va falloir que je bataille, notamment Flora Guebali qui est avec nous. Salut Flora.
Bonjour à tous, pauvre Didier.
L'entrepreneur dans la transition écologique et Barbara Lefebvre, notre prof d'histoire géo. Bonjour Barbara.
Bonjour à tous. Donc il a Didier. T'as des défenseurs des animaux et de la,
bah oui,
de la
nature. Aussi.
Oui.
Je vous rappelle, c'est le seul parmi
nous.
C'est moi qu'on a le plus
des animaux
parmi nous qui travaille avec.
Oui, mais il les mange.
Il souffre.
Il les mange. Il y a toutes les bip écolo sur le plateau.
Non, il a. Bon, alors, tout d'abord, quand même, Barbara, ton équipe a gagné hier. Je sais que tu défends l'Argentine.
Enfin, défends, j'y connais rien en foot.
Oui, mais tu nous as dit que c'était ton équipe.
Ah, j'aime bien l'Argentine.
Ouais, voilà.
J'aime donc, bien le Messi et tout ça.
Et il faut reconnaître.
Je pense qu'ils vont gagner.
C'était mérité, d'ailleurs, les Argentins.
Il faut reconnaître que c'était mérité.
J'avais dit.
Oui, hier sur le match, je ne sais pas si tu as vu le match.
Je tiens à préciser.
Pas photo.
Je tiens à préciser, je n'y connais rien en foot, mais j'ai des intuitions. Et j'avais dit, avec Anaïs, d'ailleurs, nous avions pronostiqué, Anaïs, avec la mort dans l'âme. Moi, je ne sais pas pourquoi je le sentais, que la France allait perdre face à l'Espagne. Vous étiez témoin, vous m'avez entendu le dire.
C'est vrai. Donc là, tu vois l'Argentine.
Là, je sens l'Argentine parce qu'ils sont un peu plus fourbes dans leur jeu. Et je pense qu'ils peuvent, au dernier moment, clac, retourner le truc.
Comme François Hollande, elle fait des pronos. J'ai vu les deux matchs et vu les Argentins, c'est jamais que des Espagnols d'Amérique du Sud, quoi. Donc,
oh là, voilà, bravo.
C'est une analyse comme une autre.
Ah, les généralités.
Non, mais dans le style de jeu.
Genre, tu suis un peu la Coupe du Monde.
La Grinta, c'est
tout. Alors, moi, j'ai appris le sens du mot footix dans cette Coupe du Monde.
Et tu l'as
su. Donc, je suis une footix, ouais. Les footix, c'est les gens qui connaissent rien au foot et qui débarquent pendant le mondial et qui disent ah, mais il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, tu sais, qui donnent leur avis alors qu'ils y connaissent rien. Donc, c'est ça, je crois que j'ai compris. C'est ça la définition.
C'est ça le charme de la Coupe du Monde aussi.
Mais moi, voilà, je suis une footix,
si
par contre.
Si tu peux me permettre, parce qu'on est dans le sport.
Quand j'en parle avec des vrais footeux, je leur dis, mais j'espère que tu suis le mondial sur RMC. Et tout le monde est sur RMC. Bah, ça me fait plaisir.
Bien entendu.
L'équipe de France, des jeunes rugbyman de moins de 20 ans vont jouer une finale de Coupe du Monde samedi.
Ah ben, bah, très bien. Voilà. Non, on va enfin gagner quelque chose. Bon, en tout cas, bien sûr, le foot, c'est sur RMC. C'est la radio officielle de cette Coupe du Monde avec toutes les équipes ce soir qui vont analyser ces deux demi-finales, la finale et puis surtout la petite finale France-Angleterre samedi, qu'il ne faut pas oublier. Oui, on va jouer contre les Anglais samedi. Alors quand même, contre les Anglais, on n'a pas envie de perdre. Hein, donc j'espère qu'on sera motivé pour finir troisième de cette Coupe du Monde. En attendant, vous l'avez vu quand même l'actualité en ce moment même du côté de Fontainebleau, mais un peu partout en France, ce sont bien sûr les incendies. Quasiment tout le territoire est en risque incendie. Et la plupart de ces incendies sont liés à des mégots de cigarettes. Alors faut-il limiter ce risque incendie en interdisant de fumer en plein air ? C'est une proposition qui nous vient de Saint-Dié. Après le feu de forêt qui a touché le massif forestier du Camberg, le maire réfléchit à prendre un arrêté d'interdiction de fumer en forêt pendant l'été. Il y a des villes qui ont été même plus loin. Singapour, par exemple, il est carrément interdit de fumer dehors, à l'extérieur, sauf dans des lieux qui sont réservés. Il y a des lieux pour fumer, mais en dehors de ces lieux, à l'extérieur, si vous fumez à Singapour dehors, eh bien vous pouvez finir avec une amende plutôt salée. Je peux vous dire qu'à Singapour, on respecte la loi. Alors faut-il, pour limiter le risque incendie, interdire de fumer en plein air partout, comme sur les plages, les pistes de ski, c'est déjà le cas souvent. Et est-ce que ça serait la meilleure des idées? Parce qu'on sait que ce risque incendie, dans les étés qui viennent, bah, sera toujours là et même de plus en plus présent. Didier Giraud.
Écoute, je sais pas si ça peut avoir une incidence sur les feux de forêt qu'on a ces temps, quoi. Le fait d'interdire de fumer en plein air sur les sur les pistes de ski, ça t'a pas échappé, ça déclenchait pas beaucoup d'incendies, quoi.
C'est pour des raisons de pollution.
Quand il y a un mètre de neige, oui, parce que quand la neige fond, il y a des mégots partout.
Voilà.
Mais sur les plages. Aujourd'hui, concrètement, le phénomène, c'est des gens qui fument en voiture et qui balancent leurs mégots, pas écrasés, par la vitre de la voiture. Voilà. Quand on dit des mégots qui allument, c'est ça.
Pardon, j'interromps parce que vous savez que plusieurs personnes ont été interpellées à Fontainebleau et l'une des personnes a lancé son mégot de cigarette. Il était pas au bord de la route, hein. Il était dans la forêt. Hein.
Alors voilà, ça peut exister. Mais le mec qui lance son mégot aujourd'hui en pleine forêt, c'est même pas de l'inconscience. C'est limite un pyromane pour moi, quoi.
Son acte
est quasiment aussi volontaire qu'un pyromane qui prend son petit bidon d'essence et qui va allumer, quoi. Enfin, aujourd'hui, jeter un mégot pas écrasé, c'est pareil qu'être un pyromane pour moi. Dans la météo qu'on a, dans la nature qu'on a aujourd'hui, c'est assimilé à un pyromane, un mec qui lance son mégot. Donc, du coup, interdire de fumer dehors, voilà, il y a quand même tout le phénomène des voitures qui passent à côté.
Liberticide.
On s'en fout. La France a passé sa vie à inventer des conneries liberticides. Mais je sais pas jusqu'à quel point ça aura une incidence sur les feux d'aujourd'hui. Je remarque quand même une petite parenthèse, si tu me permets, avant de donner la parole à mes collègues.
Gentil.
Je remarque quand même que les feux de forêt, ils durent depuis un mois. Ça peut brûler des milliers d'hectares dans l'Aude. Ça peut brûler à Carcassonne, à partout, dans l'Hérault, dans l'Aveyron. Il se passe rien. Là, ça brûle à Fontainebleau. Il y a des gardes à vue le lendemain matin, quoi. Ça me fait quand même doucement rigoler sur la réactivité des autorités. Dans l'Hérault, dans l'Aude l'an dernier, un an après, ils ont chopé le mec.
Oui, mais dans l'Hérault.
Un an après.
Je suis d'accord, mais dans l'Hérault, là, ils ont attrapé quelqu'un qui était responsable de 9 départs.
Oui. Les pyromanes, il faut les pisser, c'est dur.
Barbara Lefebvre.
On se pose une question, mais j'ai regardé la loi quand même. Excusez-moi, il y a une loi de 2023 qui interdit déjà de fumer dans les bois durant les périodes d'incendie qui sont définies par les préfets. Il y a même des départements qui interdisent de fumer toute l'année. Donc la loi, elle est déjà là. Et par ailleurs, depuis juillet 2025, il est interdit de fumer sur les plages et dans les parcs publics. Interdit. Partout, tout le temps.
Toute l'année.
Oui, toute l'année. Donc, excusez-moi, je ne comprends pas qu'on ait des politiques qui nous inventent il faudrait faire une loi pour... Mais elle est déjà là, la loi. Alors, un, faites-la appliquer. Deux, la difficulté de faire appliquer une loi. Je veux dire, les forêts sont immenses. On a des millions d'hectares de forêts, aussi bien les forêts de l'État que les forêts des collectivités territoriales, sans parler des forêts privées. Comment tu vas faire pour mettre un flic derrière chaque personne qui se balade dans les bois ? Ceci étant, je fréquente beaucoup les forêts puisque j'y promène mes animaux, etc. Je vais vous dire honnêtement, il m'est jamais arrivé de croiser des gens en train de fumer des clopes. Enfin, franchement, je ne comprends même pas que quand on se promène dans les bois, on ait une clope au bec. Enfin, franchement, je trouve ça même antinomique. Enfin, je trouve.
Bah, si, tu peux te balader avec la cigarette tranquille.
Mais si t'en t'es si bien, t'écrases ton mégot. Quoi.
En tout cas, bon, moi, il s'avère que c'est vrai que quand j'y repense, et pourtant Dieu sait si je vais beaucoup en forêt. Ceci étant, la loi est là. Faisons-la appliquer. Mettons aussi davantage, alors on en parlera peut-être, hein, mais à force d'avoir déshabillé l'ONF, hein, l'Office National des Forêts, qui n'est plus qu'un opérateur de l'État, à force de virer les petits fonctionnaires pour nourrir les gros fonctionnaires d'État, les hauts fonctionnaires qui touchent des 25 000, 35 000.
Quel rapport avec la cigarette ?
Si, parce que si tu as plus de gardes forestiers,
de
gens qui entretiennent la forêt, ils sont aussi là pour l'entretenir et la garder.
Mais t'imagines qu'il y a entre 15 et 17 millions de visiteurs par an à Fontainebleau.
Non, mais c'est pour ça.
Même si on met des gardes, on ne peut pas surveiller tout le monde.
Toi, quand tu te balades en forêt, tu croises jamais un garde forestier.
Oui.
Alors que quand il y a encore 30 ans, 40 ans, tu en croisais. Oui. Donc là aussi, hein, au lieu de nourrir les ronds de cuir des ministères,
il faudrait embaucher
du petit fonctionnaire sur le terrain et en plus, ça fera du boulot.
Flora, est-ce qu'il faut interdire donc la cigarette en pleine nature et en plein air ?
La France est en train de brûler là. Il y a 27 incendies en cours.
32 000 hectares brûlés depuis début janvier.
Voilà, la forêt de Fontainebleau, elle a déjà perdu 5% de sa surface et encore, ça date d'il y a quelques jours, donc ça doit être plus aujourd'hui. C'est effrayant et c'est très grave et c'est la priorité numéro un. Je rappellerai juste que sans arbres, on respire plus et sans forêt, on n'a plus d'oxygène, on n'a plus de qualité de vie. Aujourd'hui, vous regardez la France est jaune. Il y a des images satellites qui montrent le territoire. La France est plus verte, elle est jaune. Donc je vois pas ce qu'il y a d'autre à faire que de protéger le vivant et aussi penser aussi à tous les animaux qui sont morts depuis le début des canicules cette année. Donc toutes les mesures sont bonnes à prendre pour limiter les incendies. Évidemment, les mégots sur l'autoroute, les automobilistes, mais qui jettent encore, qui sont
plein de
les
gens.
Débiles mentaux,
plein de gens.
Qui jettent encore leurs cigarettes par la fenêtre en voiture. Qui fait ça en 2026? C'est dingue. Donc évidemment, il faut les sanctionner très lourdement et il faut prendre toutes les mesures possibles.
Mais je pense
et
que quelqu'un qui aujourd'hui est pris
suffisamment
sur le
pour
fait
être noté.
Acheter son mégot aujourd'hui en France, pour moi, c'est la même peine qu'un pyromane. Quoi.
Et tu vois,
parce que c'est un acte conscient d'allumer
mais,
le feu.
Mais
quoi.
Par ailleurs, excusez-moi, quand j'entends Madame Barbu, oser venir nous dire.
Qui est Madame
oui,
Barbu,
Madame Barbu, la ministre de la transition écologique,
Monique Barbu.
Elle nous annonce un plan forêt. Alors, ni budgété, ni de priorité, etc. Mais enfin, bon, hier, il fallait bien qu'elle dise quelque chose. Alors ça, c'est tout le problème de la politique aujourd'hui. Hein. C'est faut dire quelque chose. À chaque événement, faut dire quelque chose.
C'est ça le problème.
Non, mais il y a de toute façon une nécessité de renouvellement des forêts, parce que de toute façon, on a un dépérissement aujourd'hui d'une partie de nos forêts liée au changement climatique. Donc de toute façon, il doit y avoir un plan. Et mais ce plan, comment ils osent venir en parler seulement maintenant, il est même pas sur la table d'ailleurs, hein. Il est même pas budgété, il est même pas pensé.
Mais c'est qu'un tweet pour l'instant.
Oui, mais enfin, comment on peut avoir un gouvernement, un exécutif aussi faible en plus que celui qu'on a aujourd'hui, qui n'a pas anticipé, qui n'a pas eu un plan forêt? Nous recevons tout à l'heure.
Ça veut dire quoi un plan forêt, pardon? Mais...
Ah ben ouais. Un plan sur comment
mais
tu fais.
C'est de la com, un plan forêt. Non. T'invites les gens au ministère.
Non, non. D'ici 2050, on a normalement d'ici 2050,
les gens
il y a un renouvellement
de la forêt. Ils n'ont pas attendu Madame Barbu pour faire les endroits où les essences d'arbres ne supportent plus le climat et crèvent. Les gens, ils coupent les sapins, ils remettent autre chose à la
là,
place.
Tu dis
voilà.
Les gens. Il y a l'État et les collectivités territoriales. L'État et les collectivités territoriales, c'est 4,6 millions d'hectares. Ça, c'est géré par l'État.
Oui.
Donc, il y a un renouvellement nécessaire des forêts. C'est un plan d'ici à 2050 qui avait été posé déjà, mais qui chaque année, normalement, est renouvelé. Et là, on nous annonce un nouveau plan
donc,
forêt. Qu'est-ce que
ça? Non, mais ce que tu dis, alors, Barbara,
attends,
c'est important
Monique
dans le
Barbu
fait que...
Barbu n'a rien à dire. Pourquoi Monique Barbu n'a rien à dire? Parce que Monique Barbu, comme tout le gouvernement, n'a pas de majorité à l'Assemblée, n'a pas de budget et n'a pas de pouvoir. Donc, la conclusion, ce qu'on est en train de se dire, c'est que depuis 2024 et la dissolution de l'Assemblée nationale qui leur ont retiré la majorité, le président... Mais le président de la République aurait dû démissionner. Et moi, je comprends pas qu'on pose pas ce sujet sur la table.
Parce que
je vais juste finir ma phrase. En fait, aujourd'hui, il peut y avoir des crises, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir l'extinction du vivant, tout simplement, qu'on est en train de vivre. Oui. Et on a un président et un gouvernement qui n'ont pas de marge de manœuvre.
C'est pas la faute d'Emmanuel Macron s'il y a des feux de forêt, quand même.
Bon. Tu sais pourquoi c'est de sa faute? Parce que, alors si, c'est précisément de sa faute. Tu sais pourquoi? Parce qu'en 2022, il a dit, élisez-moi parce que ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Et les Français l'ont élu sur cette phrase.
Dans 5 ans, va pas rétablir le carbone dans le monde.
Non, mais pardon,
c'est de la démagogie pure.
C'est de la démagogie. C'est un responsable politique qui nous explique avec moi, il n'y aura plus feux de forêt. Je suis désolé des feux de forêt.
Ceux qui y ont cru, c'est des abrutis.
Il y en a en ce moment de gigantesques au Canada. Il y en a partout en Europe.
En 2017,
au Canada, ils cherchent même pas à les éteindre.
En 2017, il avait aussi dit qu'il aurait un grand plan pour la scolarisation et la prise de soins des enfants autistes. Il n'a rien fait.
Faire autre chose que du Macron bashing.
Mais non,
et avancer. Parce
c'est juste
que,
pour
tu
dire
vois,
que personne ne peut croire ce bonhomme. Alors comment tu peux croire
ça, je suis d'accord avec vous. Mais moi, ce que je vois dans cette affaire-là, c'est que comme d'habitude, les politiques, ils tweetent. Voilà, sans même prendre le temps de vérifier que ce qu'ils ont proposé, c'est-à-dire d'interdire de fumer en pleine nature, ça existe déjà et c'est pas appliqué. Voilà, moi j'en veux aux politiques là-dessus, sur le fait de tweeter comme Madame Barbu qui t'annonce un grand plan sans même savoir qu'est-ce qu'elle met derrière. Mais j'en veux aux politiques qui répondent à un problème précis, structurel, qui dépasse le cadre de la France. Par un tweet. Voilà, c'est
ça. Les politiques,
ils
sont là parce que vous les avez élus. Voilà.
Oui, mais.
Voilà. On a ce qu'on mérite.
Oui,
non,
Barbara,
parce que moi qui ai voté Macron.
Alors, c'est pas vrai, parce qu'en 2024, on les a sanctionnés.
Bon,
donc, c'est pas vrai.
Attendez, moi, je voudrais remettre un peu l'église au milieu du village. On était sur l'interdiction de fumer en pleine nature. Et là, vous mettez Macron au bûcher. Bon, je veux bien, mais c'est pas tout à fait le sujet. Je voudrais qu'on parle avec Nathalie au 32-16. Bonjour, Nathalie.
Bonjour, les GG.
Vous nous appelez des Landes, les Landes oui. qui avaient connu de terribles feux également il y a quelques temps, c'était l'an dernier. Que pensez-vous de et ça continue bien sûr. Que pensez-vous de l'idée d'interdire, alors peut-être déjà en forêt, mais du maire général, d'interdire la cigarette en pleine nature?
Alors, la cause des feux de forêt, oui, ça peut être la cigarette aussi, ça j'en conviens, mais il n'y a pas que la cigarette. Il y en a beaucoup aussi, les pyromanes, on l'a vu à Fontainebleau, c'est pas que la cigarette, c'est en plus un pompier volontaire qui a mis le feu. Voilà, et donc nous ici, dans les Landes, c'est pareil, après d'interdire... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si les gens ne sont pas conscients aussi, nous on les voit ici, alors pas que les touristes, mais quand on a plus de population dans les Landes là, durant l'été, on les voit les gens balader leur clope par
donc
la
c'est
fenêtre.
C'est une question de responsabilité individuelle, d'éducation, de gestes civiques.
C'est ça, déjà, il faut être... Ben, je veux dire, il faut être pas, comme on dit, chez nous, neuneux, pour comprendre que la cigarette peut faire des ravages aussi, en tant que pour la personne, mais aussi pour les forêts, pour tout, ou dans les champs aussi, parce que nous, on a des champs, c'est cramé de chez cramé.
Ça va encore plus vite dans de la chaume que dans la forêt.
Oui, tout à fait. Et moi, donc là.
Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Nathalie, je pense qu'il y a aussi une partie des gens qui se rendent même pas compte de cet acte-là.
Bah, avec oui, toutes les infos qu'on a, je veux dire, avec toutes les infos qui nous disent attention, il y a là, il y a des feux de forêt et tout, il faut pas être carré, débile, pour pas comprendre que la cigarette peut mettre aussi le feu.
Ouais, ça c'est pas, sûr. Merci Nathalie. En tout cas, vous le constatez vous-même. Vous le constatez vous-même. Ces gestes, voilà, de cigarettes jetées par la fenêtre en voiture, ça existe dans les Landes. Et c'est vrai que c'est un fléau. On continue d'en parler, d'autant plus qu'on sera avec le maire de Saint-Dié-les-Vosges, qui veut donc interdire la cigarette, le fait de fumer en forêt pendant l'été. Alors Barbara nous disait que ça existait déjà. Il va nous expliquer pourquoi lui il veut prendre un arrêté. Il sera avec nous dans un instant. Et avec vous 32-16, à tout de suite sur RMC RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Two, three, 9h24, la suite des grandes gueules avec Didier Giraud, Flora Gebali et Barbara Lefebvre et le fléau de ces mégots de cigarettes qui provoquent et qui sont responsable de la plupart des feux en ce moment même en France. Alors c'est pas le mégot de cigarette lui-même, c'est la personne qui jette ce mégot de cigarette. Faut-il interdire de fumer en plein air? C'est une idée qui circule et notamment du côté de Saint-Dié où nous sommes avec Saint-Dié-les-Vosges, où nous sommes avec le maire Bruno Toussaint qui est avec nous. Bonjour monsieur Toussaint.
Bonjour.
Rappelons le contexte, vous avez été victime d'un feu de forêt qui a touché le massif du Camberg, c'est ça?
C'est ça, le massif du Camberg a été touché ce dimanche, mais avait déjà été touché deux jours avant, enfin jeudi dernier d'ailleurs, par un autre incendie. Donc on a eu deux débuts d'incendie dans ce massif. Donc le jeudi, on a réussi à l'éteindre très rapidement. Et dimanche, on a eu quand même 2000 mètres carrés de forêt qui sont partis très très rapidement.
Et la cause, c'est un mégot de cigarette?
La cause, on pense aux mégots de cigarettes et malheureusement, les gens sont inconscients, il faut le dire, d'aller fumer en forêt, c'est sec partout chez nous. Et d'aller jeter un mégot par terre, une petite braise du mégot suffit pour mettre le feu à la forêt, quoi.
Et vous voulez donc prendre un arrêté d'interdiction de fumer en forêt pendant l'été?
L'arrêté a été pris par la préfecture et d'accord. Nous, ce qu'on l'a fait, on l'a mis en application immédiatement avec des contrôles police nationale et police municipale et ONF sur les quatre massifs, parce que la ville est entourée de quatre massifs, et de manière à ce que ça ne se reproduise pas, mais c'est l'inconscience des gens qu'il faut vraiment...
Mais monsieur le maire, que risque le fumeur qui est pris en flagrant délit?
Il a une amende de 135 euros, et puis en espérant que ça lui serve, mais ce qu'on veut surtout, c'est faire prendre conscience aux gens, comme les gens qui balancent des cigarettes en roulant quoi, sur le bord de la route, et nos bords de route sont sec, donc ça partira très vite. Quoi.
C'est que l'arrêté, bonjour monsieur Toussaint, l'arrêté, est-ce que les gens vont se l'appliquer à leur propre voiture? C'est là où j'ai un vrai doute sur l'arrêté. Et ma deuxième question, c'est, il n'existait pas déjà cet arrêté?
L'arrêté existe au niveau préfectoral, mais bon, pour l'instant, il n'y avait pas d'urgence de faire des contrôles permanents en forêt. Mais là, vu ce qui s'est passé sur nos massifs, alors je dis sur Saint-Dié, mais on était dans les petits villages à côté, on a eu quelques départs d'incendie aussi ces jours-ci. Il faut vraiment qu'on soit tous très vigilants. et que les gens le respectent. Au niveau de la ville, on offre des cendriers de poche à tous les fumeurs. S'ils sont à l'hôtel de ville, on les a mis gratuitement dans les tabacs, tout pour que les gens jettent leur mégot à l'intérieur de leur cette petite boîte, l'écrasent dedans et le mettent dans leur poche, de manière à ce qu'on n'ait plus de départ.
Ouais. Alors, en voiture, c'est vrai qu'on a supprimé les cendriers à l'intérieur des voitures. Ça n'a malheureusement pas facilité les choses.
Non.
Ça c'est sûr. C'est un handicap supplémentaire, parce que les gens automatiquement, les gens qui fument en voiture ouvrent la fenêtre et le jettent par le fenêtre.
C'est devenu un réflexe. Moi, je le vois pas seulement à la campagne, en ville.
Mais en ville, bien sûr.
Ouais. En ville, partout, on le voit. Hein, en centre-ville, on le voit. Les gens, automatiquement, étant donné. Alors nous, au niveau de la ville, ça fait quand même un an qu'on fait des campagnes anti-mégots. Hein, pareil avec la.
Parce que ça coûte très cher à ramasser.
Ah oui. On en ramasse régulièrement, et nous on fait des campagnes d'affichage, des campagnes de prévention et des campagnes de verbalisation également depuis un an sur la ville. On n'a pas attendu la sécheresse pour le faire, de manière à ce que les gens prennent conscience qu'il faut ramasser les mégots. Je vous dis, c'est pour ça qu'on offre des cendriers à qui on veut. Il y en a partout sur la ville qui sont offerts.
Merci monsieur le maire, merci Bruno Toussaint. Donc vous dites stop, maintenant il faut à la fois de la répression et puis peut-être en prenant des arrêtés, peut-être certains vont prendre conscience qu'ils avaient des comportements criminels. Non, vous y croyez pas, la prise de conscience, Barbara ?
Mais la prise de conscience, ça s'éduque aussi. C'est-à-dire que, bon, là, on en parle parce qu'en ce moment, il y a des feux, il y a des incendies, mais vous avez des pays où c'est toute l'année. Et surtout chez les jeunes générations, qu'il y a une éducation au comportement, au bon comportement. On essaie d'avancer tant bien que mal sur les gestes de premier secours, sur le harcèlement numérique. Enfin, je veux dire, il y a tellement de chantiers, mais ce chantier-là, il est pas du tout travaillé non plus. Nos collègues, par exemple, au niveau de l'éducation nationale, les collègues de SVT, que ce soit surtout au collège et au lycée, ils y travaillent, mais ils peuvent pas tout faire. Et ce serait notamment par des actions en forêt. Moi, je me rappelle, quand on était petit, on allait beaucoup en forêt, par exemple.
Notamment la forêt de Fontainebleau, pour ceux qui habitaient en région parisienne.
J'habitais à Vélizy, etc. On a des grandes forêts autour. On allait très souvent en forêt. Et on avait des activités de connaissance de la forêt, etc. Aujourd'hui, on peut plus sortir les élèves.
On a peur.
T'as des cadres, des normes d'encadrement qui sont beaucoup plus drastiques qu'à notre époque.
Il y avait un taux de perte autorisé, quoi.
Tu pouvais t'ébrouer un peu plus librement. Enfin, de toute façon, c'est une autre époque. Aujourd'hui, tu peux plus.
Il y a encore des sorties scolaires à Fontainebleau. Ça existe encore, des sorties scolaires à Fontainebleau.
Aujourd'hui, c'est plus compliqué d'organiser des sorties scolaires.
Je pense que les profs d'aujourd'hui se font moins chier que les profs d'il y a 30 ans.
Moi, je me souviens, on faisait des épreuves d'orientation à Fontainebleau. C'est-à-dire qu'on nous laissait quand même par petits groupes dans la nature avec des boussoles.
Il y a une proposition qui est sur la table politique, qui est de répartir les hectares de forêt aux classes scolaires. Donc chaque classe aurait X hectares de forêt à sa charge, et avoir un projet pédagogique sur toute l'année où tu vas une fois par semaine. D'abord, tu comprends la biodiversité qu'il y a autour de toi, parce que vous avez peut-être vu passer ce truc. Aujourd'hui, on s'est tous cité 15 logos de marques Nike, Zara, H&M, est-ce que vous voulez, McDonald's et Apple. Et personne ne sait dire, moi la première, quels arbres on a en face de nous, peut-être la première chose à faire, ce serait d'emmener les enfants dehors. Il y a aussi un projet à Paris et peut-être ailleurs en France, mais qui s'appelle la classe dehors. On fait classe à des enfants dehors, même s'il pleut, même s'il neige, même si c'est l'hiver.
Parce que le problème
quand on est dehors, c'est pas les conditions, c'est l'équipement. Si on équipe bien les enfants, ils peuvent tout à fait apprendre à couper du bois, apprendre à être dehors. Donc déjà, il y a tout un programme pédagogique à transformer. Le problème, qu'on se le dise, c'est que quelles que soient les transformations qu'on a à faire, ça demande de la marge de manœuvre politique. J'en reviens à mon point, le gouvernement n'en a pas. Point.
Reconnecter le citoyen à la nature, ça, t'as raison. Ça nous préparera à accepter les changements. Voilà.
Mais je vais te dire,
mais reconnecter le citoyen à la nature, ça va plus loin que de les emmener faire l'école au milieu des forêts.
Mais bien sûr,
c'est pas normal, par exemple,
qu'on n'emmène pas plus les enfants dans les fermes, fermes.
Oui, mais avant, Barbara, c'était très bien.
Dans des élevages, bien sûr, des
fermes
élevages.
Ouvertes, c'est 5 classes par département.
Mais c'est pas normal.
Mais Barbara, tu sais très bien qu'on a changé d'époque. Il y a une époque où on avait tous un grand-père, un oncle qui était encore agriculteur. Et donc, le petit citadin qu'on était passait une partie de ses vacances à la campagne.
Et ce temps-là est révolu.
Et même
les enfants de milieu rural ne connaissent plus la ferme et la nature. Et après, puisqu'on est sur ces débats-là, je voudrais dire que aujourd'hui en France, la forêt progresse. Contrairement à plein d'idées reçues, la forêt s'étend parce que l'agriculture recule. Et dans le milieu, entre la forêt et l'agriculture, il y a un no man's land qui s'appelle le non entretenu, la friche, vous y mettrez tout ce que vous voudrez. Et ça, c'est le terreau le plus fertile aux incendies. C'est les zones de déprise qui sont souvent autour des zones urbaines, en périurbain, qui sont dans des zones hyper touristiques, qui sont dans des zones où on a privilégié la construction de villas secondaires ou même de villas plutôt que l'agriculture. C'est des zones où le pastoralisme n'est plus possible. Ça fait bientôt 18 ans que je viens ici. Ça fait 18 ans que je dis, quand l'agriculture aura complètement disparu, l'incendie, il démarrera à Nice et il finira à Grenoble.
Ouais. Oui, t'as des incendies urbains, en fait.
Et vous verrez que, non, mais t'as des incendies qui couvriront la moitié de la France. Ah. Les incendies du Canada, ils sont grands comme trois régions chez nous parce qu'il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien.
Hier, il a raison sur la question des déprises, puisque hier, on a chopé deux gamins de 14 et 15 ans en train de mettre le feu dans un espèce de champ en friche sur des brindilles séchées dans un champ en friche. Donc, t'as tout à fait raison.
La friche, c'est comme de la poudre.
Alors, je vous propose qu'on écoute Ingrid qui nous attend au 32-16. Bonjour Ingrid. Elle nous appelle de Gironde, du côté de Mios, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce que selon vous, Ingrid, il faut effectivement sévir et maintenant interdire de fumer en plein air?
Ben, absolument pas. Je trouve qu'il faut surtout éduquer les gens, en fait. Je suis fumeuse depuis plus de 30 ans et je n'ai jamais jeté un mégot par ma fenêtre ou...
Comment vous faites en voiture? Vous avez un petit cendrier avec vous?
J'ai toujours un petit cendrier avec moi, ou bien parfois un cendrier de fortune, une bouteille en plastique avec un petit peu d'eau. Si je n'en ai pas, je mets dans ma poche. Je ne jette pas les mégots.
Oui, donc c'est une question d'éducation et de responsabilité individuelle, c'est ce que vous dites.
Mais, tout à fait, tout comme à l'époque de l'interdiction de fumer dans les restaurants. Je trouvais ça plutôt normal, parce que les gens qui ne sont pas fumeurs, au-delà de moi, c'est normal que ça les dérange. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas bien avant l'interdiction.
Mais interdire en plein air, ça va trop loin. C'est-à-dire que là, ça devient quand même liberticide.
Mais complètement. Nos droits, on parle du droit du non-fumeur, mais le droit du fumeur, pour le coup, du fait qu'on fume, on n'a plus de droit.
Non, mais moi, je m'étonne aussi que... Le problème, c'est que comme il y a quelques individus qui se comportent mal, tout d'un coup, c'est tout le monde qui trinque, quoi. Voilà.
Comme ça pour tout.
Mais c'est un peu souvent comme ça en France, puisqu'on n'arrive pas à traiter un problème, donc on dit, finalement, tout le monde sera logé à la même enseigne. Il y a un petit côté... vous savez, c'est comme le confinement, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à soigner les gens qui devaient être soignés ou à protéger les gens qui devaient être soignés, donc on a confiné tout le monde. On est toujours un peu dans cette logique.
Exactement, et c'est toujours dans la privation. Là, on parle de véhicules, d'interdire dans la voiture. On se coupe un bras, on a des gens qui travaillent, on connaît tous le coût de la vie. On s'achète une voiture, on n'a pas le droit de fumer dans ma voiture.
Oui, oui.
De quel droit on m'enlève justement ce
droit?
C'est
interdit maintenant de fumer dans sa voiture.
Oui, mais je trouve ça hallucinant en fait.
Oui.
Alors que la connerie, c'est pas de fumer, c'est de jeter son mégot, en fait.
On est bien d'accord, éduquer les gens. Les gens, ils vont au McDo, ils jettent les saletés par la fenêtre.
Oui,
les gens,
oui,
jettent
leurs
bouteilles.
C'est peut-être les mêmes. À mon avis, c'est le même. C'est-à-dire que celui qui jette son mégot par la fenêtre, c'est celui qui va laisser effectivement ses détritus dans la nature après avoir pris son McDo ou son burger.
Je peux dire que pour manger un McDo, il faut 14 kilomètres. Mes parents, ils habitent à 14 kilomètres d'un drive et ils ramassent du McDo tous les matins. Du papier de McDo tous les matins.
Et comment ça à chez eux?
Mes parents habitent au bord d'une route départementale à 14 kilomètres d'un McDrive. Et tous les matins, mon père, il ramasse des sacs de McDo.
Voilà.
Aux
14 kilomètres pour manger un McDo.
Donc on va pas non plus interdire aux gens de manger en plein air. Donc il faut.
Non mais tu vois, il y a un côté dans la voiture, cet espace protégé qui me permet de tout faire.
Oui. Et bien voilà.
Exactement. Et moi je dis éduquer les gens, sanctionner-les. Oui, parce qu'effectivement des gens dégueulasses, excusez-moi le terme. Il y en a partout. On en voit chaque jour, même au volant, on les voit. À nous ouvrir les fenêtres, balancer des.
Sauf qu'il y a une impunité parce que personne vous arrêtera en train de jeter un bout de papier, vous voyez.
Donc, en fait. Mais par contre, à contrario, on va m'interdire encore à moi quelque chose parce que je suis une fumeuse.
Et alors, vous faites attention. Ouais. Merci Ingrid, merci d'avoir appelé au 32-16.
Je vous en prie, continuez, merci pour tout.
Merci à vous de la Gironde. Nous partons dans les Pyrénées-Orientales, retrouver l'ami Patrice, Pyrénées-Orientales, qui ont connu de forts incendies au début de l'été. À Banyuls, précisément. Patrice, bonjour.
Bonjour.
Que pensez-vous de l'idée d'interdire en plein air la cigarette?
Ouf, alors là, c'est un grand débat, c'est un grand sujet. Faudrait déjà interdire, je pense, la cigarette au volant, déjà tout simplement, parce que sinon, sensibiliser les gens qui mettent une canette au vide poche ou peu importe. Parce que faudrait arrêter aussi de dire que c'est les touristes, les gens d'ailleurs, qui jettent les mégots de cigarettes. Moi, je suis chauffeur-livreur. Je vois très bien sur la route qu'il y a des gens de la région également qui jettent des mégots de cigarettes.
Vous le voyez tout le temps, ça, en tant que chauffeur, vous le voyez tout le temps devant vous.
Ce
n'est pas forcément que les touristes. Je pense qu'ils sont plus civilisés que les gens de la région.
Parce que les gens, en fait, ne prennent pas le temps ou ne font pas l'effort.
Non, mais les gens, ils
n'ont
pas d'alternative. Ils n'ont pas de cendrier dans la bagnole. Et les gens de 30 ans qui fument aujourd'hui n'ont jamais connu un cendrier dans une bagnole, quoi. Voilà.
Les cendriers mobiles. Tu peux t'acheter un petit cendrier mobile. Enfin, ça coûte
ou
bien,
le fabriquer
ça coûte 2 euros.
Oui, elle le disait, Ingrid, tu peux jeter dans une bouteille.
Une canette.
Oui, mais ça, il faut le prévoir. Donc, les gens ne le prévoient pas, ils montent dans la voiture. Et puis,
éviter de jeter les canettes en ferraille, ce serait bien.
Oui, c'est vrai.
Aussi,
parce que dans le ventre d'une vache, c'est pas super, quoi.
Non, bon. Mais c'est vrai que un vide poche ou une canette, excusez-moi du terme, mais ils mettent le mégot de cigarette par derrière et ils attendent d'arriver chez eux pour le retirer et le jeter, quoi.
Merci Patrice. Bon, en tout cas, dans les Pyrénées orientales, c'est bien un endroit, c'est tellement sec.
Il faut
faire attention. Ouais.
Bon, mais
est-ce que vous pourriez, Patrice, pratiquer la délation?
Ah, bah oui, parce que vous avez la plaque.
Ah, moi, si j'envoie un ces jours, je prends la plaque en photo et j'envoie.
Ah ouais, tu peux faire ça.
Je considère qu'un mec qui jette un mégot aujourd'hui, c'est un pyromane assumé.
Exactement.
Voilà. Toi, tu prends en photo la plaque.
Ah oui, sans aucun problème.
Tout à fait d'accord avec Didier. Alors,
ça sera l'objet d'un autre débat. Faut-il dénoncer la voiture, l'automobile
devant toi qui jette son mégot, ces jours en France, c'est un pyromane assumé.
En dehors des questions de feu, les arbres en ce moment connaissent un stress hydrique extrêmement fort. Et donc, en dépit, les arbres là vont souffrir du feu, mais les arbres en général, et sans parler de la faune, j'en ai déjà parlé la dernière fois, là, il y a un stress hydrique aussi bien de la faune et de la flore dans toute la France qui est très inquiétant. Alors, on espère des pluies. Et j'espère que quand il va beaucoup pleuvoir, on n'aura pas maintenant.
Pas pleuvoir,
il pleut trop. Non.
Malheureusement, là,
il y aura des inondations.
Pour l'instant,
il y aura des inondations cet automne, Barbara.
Hier, il y avait de la grêle en France.
Il y a de la grêle.
Tout est normal. Au mois de juillet, c'est les 10 plaies d'Égypte et on se remet pas en question. Mais
Patrice, merci d'avoir appelé 3216 sur le compte X des Grandes Gueules. Nous vous avons posé la question suivante. Faut-il dire non à la clope en pleine nature? Eh bien, vous dites oui. 69,9%, non quand même, à 30,1%. Dans un instant, Anaïs Sens nous rejoint pour le OSEF. On s'en fout pas, à tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
1, 2, 3,
4. 9h44. La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Autour de la table aujourd'hui, Flora Guébali, l'entrepreneur dans la transition écologique, Barbara Lefebvre, la prof d'histoire géo, et Didier Giraud, notre agriculteur de Saône-et-Loire, et Anaïs Sens qui vient de s'installer.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Elon Musk apporte son soutien à Marine Le Pen. Il la qualifie de dernier espoir pour la France dans un tweet posté sur son réseau social X hier. Est-ce qu'on s'en fout pas, Barbara?
On s'en fout pas.
Flora?
On s'en fout pas.
Didier?
On s'en fout pas.
Barbara?
On s'en fout pas. Il est pas très rancunier, hein, parce que pourtant Marine Le Pen, c'est pas non plus quelqu'un qui a beaucoup encensé le clan Trump. On peut pas dire. Hein, elle est pas très trumpiste.
Musk, il y a de la friture sur la ligne entre Musk et Trump, non?
Oui, non, mais je veux dire à l'époque même. Bon, ouais. Écoutez, il apporte son soutien à Marine Le Pen. Enfin, c'est pas ça qui va faire élire Marine Le Pen en France non plus. Hein, voilà.
C'est pas le baiser de la mort un peu?
Non, pas du tout. Je crois pas. Moi, je vais te dire juste une chose. Alors, on va me dire c'est un pas de côté, mais c'est pas un pas de côté. Moi, je connais des gens, des étudiants, notamment des étudiants iraniens, qui, grâce à Elon Musk, ont pu avoir des nouvelles de leur famille, grâce au téléphone que Musk a réussi à faire passer et à Starlink. Donc, on peut accuser tout ce qu'on veut. Moi, en tout cas, je peux vous dire qu'il y a des gens, c'est grâce à Elon Musk qu'ils ont eu des nouvelles de leur famille en Iran. Et donc, oui, il est peut-être liberticide, il est peut-être fasciste, il est peut-être ce que vous voulez. Ouais. N'empêche que c'est lui qui a réussi à faire passer les téléphones pour que un peuple puisse enfin s'émanciper de ces tyrans. Donc voilà.
Alors, est-ce que c'est un soutien embarrassant, Flora, contraire,
Elon Musk,
soutien qui va aider parce qu'on sait sa puissance aussi de frappe via ses réseaux sociaux, Marine Le Pen.
Quand il dit que c'est le dernier espoir pour la France, il dit que c'est le meilleur espoir pour coloniser la France. Parce que Marine Le Pen et Jordan Bardella, on l'a vu, c'est le soutien total aux Américains. Par exemple, là, à l'Union Européenne, on essaye de s'émanciper par la monnaie en votant l'euro numérique. Et bah, eux, ils votent contre parce qu'ils préfèrent que ce soit les Américains qui s'enrichissent sur nous. Le général de Gaulle, il aurait pas dit comme Barbara, il est peut-être fasciste, mais il donne du réseau aux Iraniens. Non, il est peut-être fasciste, il n'y a pas de mais après. Il est fasciste. Non,
quand je dis fasciste, c'est la façon dont les gauchistes
le traitent. Barbara, mais on t'a fasciste du tout. On t'a écouté, Barbara. Donc là,
c'était
on va m'écouter
de l'ironie.
Moi.
Il est fasciste.
En fait, quand il y a le mot fasciste dans une phrase, il y a pas de mais. Il est fasciste. Oui, point final.
C'est une blague.
S'il décide de soutenir Marine Le Pen,
c'est les gauchistes qui décident qu'Elon Musk est fasciste. Pour moi, c'est juste un libertaire.
C'est l'histoire.
C'est un anarcho-libertaire à la
mi-temps qui soutient l'Allemagne, qui veut expulser des immigrés qui sont allemands. Alors la nouvelle décision des Allemands, c'est d'expulser des Allemands de nationalité parce qu'ils sont d'origine étrangère.
Ce qui est marrant avec la gauche, c'est qu'un coup le RN soutient Poutine, un coup il soutient le dollar de Trump. Enfin bref,
ce qui soutient pas, c'est la souveraineté française et la démocratie.
Surtout pour aller voter l'euro numérique. Alors là, on se met encore plus les liens avec l'Union européenne d'Ursula. T'as raison.
Ce qui est amusant, c'est quand on dit à Elon Musk, oui, mais Marine Le Pen, elle est accusée d'avoir un programme de gauche socialiste, et lui il dit, bah oui, mais de toute façon. Tous les partis politiques en France sont un
problème
de gauche.
Ça, c'est marrant, et je pense qu'il a un peu raison. Par contre, ce qui me fait pas rire, c'est qu'un mec comme lui s'intéresse à la campagne française. Et du coup,
t'as peur de l'ingérence?
On sait bien que par ses réseaux sociaux, tout le business, tout le monde va essayer d'influencer le truc. Une fois qu'ils ont choisi un candidat, ils poussent derrière leur candidat, que ça soit Poutine, Trump et les autres. Mais à un moment donné, c'est surtout que le monsieur qui s'exprime là, quelle expérience politique il a pour venir nous donner les leçons, lui. Il a été 15 jours dans un gouvernement, il s'est pris le chou avec Trump et il s'est cassé. Voilà. Oui, donc, à un moment donné, quelle expérience politique
il a. Il a une puissance
économique. Mais oui, mais bien sûr, mais est-ce que ça lui donne le droit d'avoir un avis sur les candidats en France? Peut-être, mais que ça soit audible pour les électeurs.
Oui, et quand un footballeur te donne son avis politique, il est mieux positionné,
c'est fait pour jouer au foot et pas fait pour faire de la politique.
Les GG, on enchaîne.
Volodymyr Zelensky, qui découvre les charmes de l'Europe. Écoutez, lui qui milite pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne vient de se tirer une balle dans le pied. Le président ukrainien n'a pas respecté ce qui est aujourd'hui une règle pourtant sacro-sainte en Europe. Il a été vu en train d'arracher le bouchon de sa bouteille d'eau.
Regardez les images sur la story si vous êtes devant. Bon, en fait, il est énervé par ce bouchon qui
lui fout au milieu de la bouche quand tu vas voir là. Oui.
C'était lors du défilé du 14 juillet mardi à Paris, au mépris donc des normes de l'Union européenne, des normes environnementales qui imposent des bouchons attachés, vous savez, avec un petit bout de plastique. Attachés. Évidemment, cela a amusé les internautes sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Didier?
On s'en fout pas du tout. J'ai plein de choses à dire.
Flora.
Moi, je m'en fous, mais vu la réaction d'Olivier, je m'en fous pas.
Ah, Barbara.
Je m'en fous complètement.
Bon, Didier.
Eh ben, je dirais à Monsieur Zelensky qu'il n'est pas encore mûr pour venir dans l'Europe, sa suradministration,
avec ses normes
à la con qui font chier la vie des gens. Ouais. Il n'est pas encore mûr pour adhérer.
Oui,
c'est pour une bonne cause,
c'est pour éviter qu'on fasse tomber le bouchon.
Ils nous pourrissent la vie à vouloir nous la simplifier, qu'ils s'occupent de leurs fesses, qu'ils fassent diriger l'Europe de façon économique, qu'on se protège des importations de gens qui ont pas les mêmes normes que nous, et puis qu'on nous laisse vivre tranquillement, parce que franchement, les bouchons attachés, mais moi je trouve ça d'une aberration stupide.
Flora, t'es pas d'accord avec Didier?
La France est à feu et à sang. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous dire que finalement, oui, jeter des bouchons en plastique partout, c'est nul.
Mais c'est pas parce que le bouchon est pas attaché que tu la jettes, hein, Flora.
Et avoir un bouchon accroché à une bouteille, c'est pas si pire. On va s'en remettre. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Arrêtez d'acheter des bouteilles en plastique, prenez des gourdes et vous pourrez décrocher votre bouchon.
Exactement, moi, j'ai une gourde.
Et juste, en fait, comment on peut comparer?
Il est pas dans une gourde.
Comment on peut comparer l'extinction de l'humanité et c'est désagréable de boire avec un bouchon accroché? Voilà. Enfin,
oui, du coup, c'est à peine vraiment le même pas de temps, quoi, Flora.
Mais c'est vrai que c'est insupportable de boire avec ce bouchon accroché.
Juste un truc. Évidemment, on va mettre la clim partout, j'espère le plus vite possible. On va interdire les mégots en forêt. Ok. Après ça, le sujet, c'est est-ce qu'on va réchauffer de 3 degrés ou de 4 degrés?
Parce que entre
3 et 4 degrés, tu sais ce que c'est la différence?
Non, c'est pas les bouchons en plastique.
On peut vivre ou on peut pas.
Non,
mais jamais rien la différence.
Mais madame, je donne des ordres là. Tu vas expliquer aux Indiens qui essayent de sortir de leurs conditions de mendiants qu'ils ont aussi accès au progrès, à la consommation, et tu vas leur dire qu'ils continuent à vivre comme des manants.
Les Indiens, ils ont des
confinements écologiques
chaque année.
Parce que 3 degrés, c'est trop, quoi.
Les Indiens, ils ont des confinements écologiques chaque année. Et je sais pas, c'est quand. On est en phase terminale, mais c'est quand vous serez.
C'est
quand que vous allez vous réveiller?
C'est les bouchons sans merde, les gens.
Alors, attends. C'est très important. C'est pas les bouchons le problème. C'est pas les clopes le problème, c'est pas Temu et Chine le problème, c'est pas la fast fashion le problème, c'est pas H&M le problème, c'est pas l'avion le problème,
c'est le pouvoir d'achat.
C'est pas les SUV thermiques, c'est pas les SUV thermiques le problème.
On a tué notre industrie textile, et pourquoi on l'a tué? Mais parce qu'on a le coût du travail insupportable à tuer notre industrie.
Le modèle social français.
Et je te rappelle quand même que le pays a été dirigé par des gens de gauche comme de droite qui ont dit que l'industrie c'était pas vrai.
La solution d'Olivier Truchot.
Et du coup, on met tout dans les porte-conteneurs et on enchaîne.
Et maintenant, on emmerde les gens avec des bouchons parce qu'on n'a plus que ça à faire.
Allez, on termine sur une note positive. La politique a changé, le déficit public de la France.
Note positive.
Atteindrait 6,8% du PIB en 2030, dans 3 ans donc, hein, contre 5,1% aujourd'hui seulement, j'ai envie de dire. Voilà le cri d'alerte d'un groupe d'économistes missionnés par le gouvernement. Ils évaluent, tenez-vous bien, à 125 milliards d'euros.
Combien ?
125 milliards d'euros, l'effort à réaliser d'ici 5 ans. Est-ce qu'on s'en fout pas, Barbara ?
On ne s'en fout pas.
Flora ?
On s'en fout pas.
Didier ?
On s'en fout pas, mais je vais leur laisser la parole.
Les candidats à la présidentielle sont prévenus, en tout cas. Hein. C'est au prochain président qu'incombera cette très, très, très lourde tâche. Barbara.
Non, mais la situation est vraiment tragique. Je sais pas si on se rend compte que la France est vraiment au bord de la banqueroute. On l'est déjà.
Non, parce que quand Fillon,
l'avait dit, à l'époque où il était Premier ministre de Sarkozy, ça ricanait. Il l'a redit pendant la campagne de 2017. Il avait d'ailleurs un plan drastique, enfin semi-drastique, parce que quand on voit aujourd'hui la situation qui s'est tellement aggravée, là, je le dis, mais avec la plus grande des gravités, vraiment, Emmanuel Macron aura ruiné ce pays, mais l'aura rendu même ingouvernable. Donc je le dis avec beaucoup de tristesse, mais je crains que qui que ce soit qui soit élu ne déçoive dans sa capacité à redresser les finances publiques.
Tu veux que je te donne un
exemple?
Compte
tenu du délire hollando-macroniste qu'on a vécu pendant 15 ans.
Déjà, tu parles de François Fillon, ça date un peu, mais plus récemment, un ancien Premier ministre a alerté, c'est François Bayrou qui disait qu'on était en train d'aller dans le mur. Et on l'a fait sauter.
Pour ça.
Et là, ce matin, je disais que le gouvernement actuel, qui pareil dit c'est très grave, etc., dit on va limiter la hausse des dépenses à 0,4%. Donc, il n'est pas sûr, on va baisser, limiter la hausse des dépenses.
Et ils se sont tous augmentés.
Une phrase même.
Trop tard. On me dit que c'est trop tard. Mais oui, et bon, 9h55.
Podcast, réponse de Flora.
Réponse de Florent Podcast. Et on se retrouve dans un instant. On va parler de la fin de vie. La loi a été votée. Est-ce que c'est un progrès ou une régression? A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.